On a eu, si vous voulez, cinq grandes périodes du dialogue. On a eu les pionniers d'abord, avec Thomas Merton, Henri Le Sault, Bette Griffiths, et puis de nos jours, Christian de Chergé, etc. Ensuite, nous avons eu les fondateurs du DIM en 1965, à partir de 1965, avec Jean Leclerc, Cornelius Tolens, le père Mayel de Dreuil, etc. C'était des moines qui étaient soucieux de l'avenir du monachisme et de ce dialogue avec les autres moines des autres religions. Et puis, on commençait à partir de 1978-1979 les échanges spirituels du dialogue interreligieux monastique Est-Ouest, c'est-à-dire avec le Japon, les moines zen japonais. Et le DIM ensuite est devenu autonome à partir de 1994. Alors là, nous avons continué donc nos échanges. Comme je vous disais tout à l'heure, ça a débuté en 1979, des missionnaires chrétiens qui étaient venus au Japon. Ils voulaient montrer un aspect plus contemplatif du christianisme et ils ont participé à l'organisation d'un voyage d'une trentaine de moines bouddhistes japonais en Europe. Et c'est en 1983 que des moines et des moniales chrétiens ont été invités pour la première fois à aller au Japon. Ils étaient 17 à l'époque à partir. Et les caractéristiques de ces rencontres, c'était donc ça se faisait dans des monastères avec des échanges réciproques. Il s'agissait surtout d'hospitalité, hein, se recevoir les uns les autres, se découvrir les uns des autres. Et quand on est dans un monastère zen, on s'abandonne, on fait confiance totalement à nos hôtes, qui vont pas nous épargner non plus, hein, j'ose dire, parce que une vie dans un monastère zen, c'est assez spartiate, hein, c'est très difficile. Mais c'est une double expérience où il y a beaucoup d'amitiés qui en découlent et on est plus vulnérable pour être plus touché peut-être.
L'aspect monastique dans le dialogue interreligieux est moins connu. En quoi cette dimension contemplative est importante pour ce dialogue?
C'est important pour toujours pareil, la recherche de la paix, établir la paix, le dialogue entre les cultures, les religions, s'apprécier les uns les autres. Je crois que on doit être d'abord, autant qu'on le peut, solide dans sa propre vocation chrétienne pour nous, mais je crois que ça nous fortifie aussi dans notre vie de foi, de voir aussi qu'il y a d'autres moines, d'autres nonnes bouddhistes par exemple, qui sont à la recherche de la vérité, de l'absolu. Et nous pouvons échanger sur des points qu'ils ont, eux, positifs, et eux, ils peuvent prendre des points positifs chez nous aussi. Attention, sans faire de syncrétisme, bien sûr.
En quoi ce contact avec ces moines et ces moniales orientaux a été enrichissant pour votre foi de bénédictine?
Ah, moi, c'était toujours la parole de l'Évangile, aller enseigner à toutes les nations, et puis voir que l'Esprit Saint travaille très fort aussi chez ces gens-là. L'Esprit est présent là. Ce sont des semences du Verbe, faut pas l'oublier, hein, je crois.
Le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux a donc 50 ans. Quel
Oui.
regard portez-vous sur ce demi-siècle de dialogue?
Très positif, bien sûr, hein, très positif, car il y a eu beaucoup d'avancées de fait. Cet avenir pour le dialogue, c'est vraiment avancé. Nous devons rappeler que nous avons une tâche d'église à accomplir. Hein. C'est pas pour notre propre gouverne non plus. Nous sommes là à agir pour l'église et il faut que les moines s'engagent pour ce dialogue. Nous avons à prendre un développement de la théologie maintenant.
C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de coexistence, d'amitié au quotidien entre les
Oui,
religions.
oui, oui.
Là, il y a un véritable développement théologique qui
Ça,
est possible, hein.
nous devons essayer tout au moins, essayer de creuser cela de plus en plus maintenant. Et ce pluralisme interreligieux, c'est vraiment un signe des temps. Et l'apport de nous, moines et moniales, est irremplaçable, je crois. Et nous devons être mieux formés toujours au niveau de l'obéissance et de la liberté spirituelle, avec beaucoup de bienveillance et d'humilité. Ça demande aussi beaucoup d'humilité. On n'arrive pas là en pays conquis auprès de nos frères et sœurs d'autres religions. Et je crois que c'est ce que fait toujours le cardinal Torrent quand il va dans tous les pays. Encore dernièrement, il était en Jordanie, j'ai vu, et c'est bien ce qu'il disait aussi, hein, cette attention à l'autre, etc.
Quand on parle de dialogue interreligieux, on évoque souvent les relations entre les chrétiens et les musulmans. Est-ce que les religions orientales ne sont pas un peu délaissées, entre guillemets, parfois?
Ben, on en parle beaucoup en France, mais nous, le DIM, par exemple, nous avons, oui, collaboré avec des musulmans en France, bien qu'ils ne soient pas moines et moniales, mais nous collaborons énormément avec les moines zen bouddhistes japonais, et puis l'Inde avec les moines hindous. Nous-mêmes, nous sommes allés deux fois en Inde. Les voyages en Inde, c'est toujours pareil, cet enrichissement de l'autre, ce sens de développer le bien pour l'humanité qu'ils ont, par exemple, dans les temples de Ramakrishna, où ils ont des associations caritatives énormes. Ils couvrent tout ce qui est pour les enfants, les orphelins, pour tout ce qui est au niveau social, médecine. Ils ont des hôpitaux gratuits pour les pauvres, etc. Et tout ça, ce sont des religieux qui tiennent ça. Et ça m'a beaucoup appris de voir que on les appelle un petit peu, d'ailleurs, ceux de Ramakrishna, les jésuites de l'Inde, parce qu'ils gouvernent tout ça. Ils ont des universités, etc. Voilà.